Bonjour à tous. Donc, je vais effectivement vous présenter brièvement, parce qu'on pourrait en parler des heures, donc le rigging dans Blender. Donc, d'abord, on va voir ce que c'est le rigging, comment ça marche, quelques exemples ensuite de rig mécanique ou organique. Et d'abord, je vais vous faire bosser un peu, parce que je ne vous connais pas tous, donc déjà pour savoir un petit peu à qui je m'adresse. Donc, déjà, qui sait ce que c'est que le rigging ? Donc, qui ne sait pas ce que c'est ? D'accord. Donc, pour ceux qui avaient levé la main en disant, en connaissant le rigging, est-ce que vous connaissez la différence entre le rigging et le skinning ? Oui ? Non ? Pas forcément ? Ok, donc qui a déjà utilisé un rig dans Blender ? Ouais. Qui en a déjà construit un rig dans Blender ? Okay. Et qui sait ce que c'est qu'un driver ? Ok, ça marche. Merci. Donc, le rigging, ça sert à quoi ? Ben, ça va servir à pouvoir animer des objets déformables, donc qui sont déformables ou pas d'ailleurs, mais ça va permettre, contrairement aux objets solides, de pouvoir manipuler des objets qui vont être déformés et d'automatiser certaines actions. Donc, vous allez voir, on ne va pas forcément avoir beaucoup de slides, on va passer pas mal de temps dans Blender. Alors tout d'abord, j'ai cette porte-là que j'ai rapidement animée. Donc, ici, elle est animée sans utiliser de rig, c'est pas la peine, c'est un objet qui ne se déforme pas. Donc je peux directement animer la rotation de ma porte. Par contre, si j'ai ce tube-là et que je veux pouvoir le tordre comme si c'était un tuyau, ben, en animant sa position, sa rotation ou son échelle, ben, je ne vais pas pouvoir tordre comme si c'était un tuyau, mais je vais être obligé d'utiliser un rig qui va me servir. Donc là, c'est le rig ultra simple qui va me permettre de déformer mon tuyau. Mais ça va permettre également de gérer des objets qui ne sont pas forcément déformables, mais qui vont permettre d'automatiser certaines actions en utilisant des contraintes, donc en utilisant un rig ou en utilisant directement le contrainte sur les objets, comme par exemple dans ce système ici, où tout simplement en tournant une roue, je vais pouvoir automatiser la rotation de la deuxième roue dentée et du troisième élément. Donc tout à l'heure, j'ai parlé du skinning et j'ai parlé du rigging. Le skinning, en fait, c'est l'action de lier le squelette. Donc le squelette, on verra un tout petit peu après ce que c'est, le lier au maillage. Donc le maillage, donc, c'est votre objet ou votre personnage en 3D qui est comme ça et qui ne peut pas bouger. Je peux juste éventuellement tourner comme ça ou mettre à l'échelle, etc. Mais je ne peux pas encore lui faire des mouvements qui vont déformer ce maillage-là. Donc le skinning, c'est l'opération qui est de lier le squelette au maillage et en disant, pour chaque point de mon maillage, je vais l'associer à un os de mon squelette en lui donnant un poids. Donc c'est ce qu'on voit sur l'image du haut ici, où on va donner un poids, c'est-à-dire que si je bouge tel os de mon squelette, tel point va être influencé par le mouvement à 100%, c'est ce qu'on voit en rouge ici, à 50%, 20%, etc. C'est le dégradé qu'on voit entre le jaune, le vert, le bleu. Et le bleu foncé ici, c'est ce point du maillage-là n'est absolument pas influencé par le positionnement de mon os. Et le rigging, ça consiste à fournir les contrôles nécessaires pour l'animateur, puisque ça ne suffit pas de lier le maillage au squelette. Il faut aussi rendre l'animateur content en lui donnant tout un tas de possibilités pour son personnage. Et donc c'est ce qu'on voit en bas, où on a uniquement donc, le rig, et donc ici, où l'animateur va pouvoir directement utiliser ces propriétés-là pour bouger notre personnage. Alors comment ça marche ? Donc on a besoin, j'ai parlé de squelette, j'ai parlé d'os, etc. Donc dans Blender, on a un type d'objet particulier qui est l'armature, qu'on retrouve dans le menu ici. Lorsqu'on fait Shift A pour rajouter, on a les armatures ici, et on va pouvoir rajouter directement un nouvel objet, donc qui est un objet comme un autre, hein, ici, qu'on retrouve dans la liste des objets, dans l'outliner. Et cet objet-là, par défaut, se compose d'un seul os, mais on a la possibilité de rajouter plusieurs os. Et donc, ces os-là sont des composantes de notre objet de départ. Cet objet-là, il a une particularité, c'est qu'en plus d'avoir le mode objet et le mode edit, on va pouvoir trouver un troisième mode, qui est le pose mode. Donc on retrouve ici, pour ceux qui ne sont pas passés à 272, où on retrouve les menus, les pile menus, on le retrouve ici, hein, et on le retrouve aussi donc, avec le raccourci CTRL-TAB. Et donc, notre objet ici a un troisième mode qui est le pose mode, qui est le mode qui va être utilisé par l'animateur ensuite pour animer nos objets. Ensuite, on va utiliser la notion de parent-enfant entre les différents os de notre armature. Donc, il y a une image pour visualiser tout ça, c'est la femme enceinte, donc c'est pas de moi, hein, c'est de Nathan Vegdal, qui a travaillé avec la Bender Foundation pour faire un DVD de formation. Et donc c'est tout simple, le lien qu'il y a entre les parents et l'enfant, c'est que si la femme enceinte se déplace, son enfant va suivre, quoi qu'il se passe. Par contre, l'enfant, lui, il va pouvoir bouger indépendamment pour se déplacer, faire des galipettes dans le ventre, etc. Donc ça va marcher exactement de la même manière dans Blender, où je vais pouvoir donc, créer un premier os, et je vais pouvoir créer un deuxième os, donc je le fais ici par extrusion, donc par défaut, cet os-là va être enfant de mon premier. Donc effectivement, si je tourne mon premier os, le deuxième os va suivre. Si je déplace, c'est la même chose. Par contre, mon enfant ici, il va pouvoir bouger indépendamment du parent. Donc par défaut, il est collé, c'est-à-dire que je ne peux pas le déplacer, mais on a la possibilité de créer un os qui soit enfant, mais qui ne soit pas forcément lié aux parents. Et donc dans ce cas-là, si je déplace mon parent, il vient avec, mais je peux déplacer mon enfant indépendamment. On voit qu'il y a le petit trait qui apparaît ici, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre le parent et l'enfant. Effectivement, maintenant, si je déplace le parent, l'enfant va suivre. Donc ça, c'est bien sûr très souvent utilisé dans le rigging. Ensuite, on a toutes les contraintes qu'on va pouvoir appliquer à nos os. Donc ces contraintes-là, il y en a beaucoup, vous voyez ici, il y a le menu qui apparaît, je ne vais pas tous les présenter. Le principe est simple, c'est d'appliquer une contrainte qui va jouer sur sa position, sa rotation ou sa mise à l'échelle. Donc par exemple, dès que Blender m'aura rendu la main, voilà, hop, je peux créer, hop, donc ici un premier os, et je peux en créer un deuxième, et je peux tout à fait dire que ici je veux que le deuxième, celui qui se situe à droite, il ait la même rotation que mon premier os. Et donc si je déplace mon premier os, le deuxième va suivre et va avoir donc la rotation qui suit. Je peux le faire ici, le voir, pardon, ici, sur cet os-là, il y a un onglet ici où on voit la liste des contraintes qui apparaissent. Donc on peut jouer là-dessus pour régler, donc automatiquement faire en sorte que lorsque je bouge un os, mais il y ait plusieurs objets par exemple qui se déplacent et qui tournent de la même manière. On a la possibilité aussi de jouer sur le fait qu'on peut rajouter plusieurs contraintes sur un même os. Donc par exemple, je vais créer un troisième os et je vais dire hop, que cet os-là, je veux qu'il ait la même position que le premier. Donc ici, on a l'impression qu'il y en a un qui a disparu. En fait, il n'a pas disparu, c'est juste qu'il a exactement la même position. Mais cet os-là, j'ai la possibilité de le dire, donc je peux le rajouter à la main ici, que je veux qu'il copie la position dans mon armature de mon troisième os, qui va s'appeler comme ça. Et là, on voit que mon os, il s'est déplacé de ce côté-là. Tout simplement parce que les deux contraintes sont contradictoires et que la liste des contraintes s'applique de haut en bas. Donc la première contrainte qui lui dit de toujours s'appliquer, de toujours suivre la position de cet os-là, est contrebalancée par le fait qu'il y a une autre contrainte qui arrive après et qui lui dit de toujours suivre la position de cet os-là. On a la possibilité de jouer sur l'influence ici de la contrainte. Donc, cette première contrainte ici, son influence n'a aucun effet puisque de toute manière, ça ne joue plus par rapport au fait que la deuxième contrainte vient écraser la première contrainte. Par contre, j'ai la possibilité ici, si je repasse mon influence à zéro, bah, cette contrainte-là ne s'applique plus du tout puisque une influence à zéro dit pas d'influence du tout. Donc, c'est toujours cette première contrainte qui maintenant vient s'appliquer. Et j'ai la possibilité d'utiliser des valeurs entre deux. Donc si par exemple je dis 0,5, eh bien, j'ai une première contrainte qui lui dit de toujours suivre cette hausse-là et une deuxième contrainte qui lui dit de suivre cette hausse-là mais avec une influence à 0,5. Et en utilisant ça, par exemple, je suis sûr d'avoir toujours mon hausse qui va être pile au centre entre mes deux hausses, entre mes deux autres hausses. C'est pas facile à dire ça. Voilà, donc on va pouvoir jouer sur cette pile de contraintes et en jouant avec les influences, on va pouvoir s'amuser à faire tout un tas de choses également. Les layers, donc les layers, pour tous ceux qui ont touché à Blender, vous savez ce que c'est, hein, ce sont des calques sur lesquels on peut déplacer les objets. Pour ceux qui n'ont jamais fait de rigging, ce que l'on sait moins dans ce cas-là, c'est qu'il y a aussi un système de layers, mais directement pour les os. Ça va nous permettre de cacher la complexité du rig à l'animateur. Donc, par exemple, cette os-là, ici, si je vais dans l'onglet de mon armature, on voit que j'ai un nouveau système de layers ici qui concerne donc, uniquement mes os. Et donc cette os-là, je peux par exemple le déplacer, donc c'est la touche M aussi, sur un nouveau calque. Et donc dans ce cas-là, on ne le voit plus. Mais ça n'empêche pas que le système va continuer à marcher et que les contraintes vont continuer à s'appliquer. C'est juste un système pour cacher la complexité du rig à l'animateur. Ou pour lui permettre de visualiser que certaines choses, on reviendra dessus plus tard, qu'à certains moments il veut voir certains types d'os, qu'à d'autres moments il veut voir d'autres types d'os. Et enfin, les custom shapes, donc l'image de droite, donc, c'est directement l'armature telle qu'elle est visible lorsqu'on construit le rig, mais ça convient pas forcément à l'animateur qui lui préfère avoir un rond à la place du bras ici pour directement manipuler ce rond ou à la place de la tête. C'est beaucoup plus simple pour l'animateur de se retrouver dans ce cas-là. Mais tout simplement, on a la possibilité de remplacer un os par n'importe quel objet et cet objet va se positionner à l'endroit de l'os comme si c'était un os et on va pouvoir le manipuler en pose mode comme si c'était un os, puisque c'est un os, mais que visuellement, il ressemble à autre chose. Donc je peux vous faire l'exemple, pareil. Hop, je vais créer un objet, allez, la tête de Suzanne, et je peux dire que cet os-là, donc ça se passe dans l'onglet de l'os ici, on a Custom Shape ici, et je peux le remplacer par Suzanne. Donc maintenant, mon os, c'est Suzanne. Et je peux utiliser la même chose pour cet os-là. Voilà. Donc ça reste des os, mais je peux utiliser ensuite n'importe quel, visuellement, n'importe quel objet pour aider l'animateur à s'y retrouver. Là, par exemple, utiliser deux fois le même objet, c'est pas une bonne idée. Et ensuite, les drivers, donc, qui vont être utilisés aussi lorsqu'on construit le rig, ça permet d'animer une propriété, la position ou la couleur, etc., à partir d'une autre propriété du même objet ou d'un autre objet. Donc ça va permettre d'automatiser certaines choses. Donc par exemple, ici, on a un cube qui est noir. Et lorsque je me déplace sur l'axe X, il devient bleu. Lorsque je me déplace sur l'axe Y, il devient vert. Et lorsque je me déplace sur l'axe Z, il devient rouge. Et si je me déplace ensuite dans n'importe quel axe, mais ça va faire le mix de toutes les couleurs. Donc ça, c'est un driver qui est positionné sur la couleur. Je dis je veux que la couleur soit conditionnée à la position de mon objet. Donc, lorsque l'on fait de l'animation, on voit souvent, lorsqu'on rajoute une image clé, des choses qui sont en jaune comme ça, ça veut dire qu'on est sur une image clé. Lorsqu'on est en vert comme ça, ça veut dire qu'on est entre deux images clés et qu'on fait une interpolation. Et lorsqu'il y a un driver sur une propriété, ça apparaît en violet. Donc là, on le voit sur ma couleur. C'est une mauvaise idée de laisser le cube en violet. On voit que la couleur ici est entourée par un filet légèrement violet. Donc ça explique que j'ai un driver sur ma couleur. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur comment on construit le driver. Je pourrais y revenir plus tard si vous voulez. Donc à partir de là, c'est quasiment les seules choses qu'il y a besoin de savoir pour faire du rigging. Et c'est en bidouillant tout ça et en l'agrégeant de différentes manières, en utilisant les contraintes qui vont bien, qui va nous permettre de construire quasiment n'importe quel rig. Donc je vais donner quelques exemples de rigs mécaniques. Donc, les crédits, la plupart des choses sont des choses Creative Commons, mais pas uniquement. Donc, un petit exemple rapide qui est simplement ici. Alors, il y a une petite interface. Hop. Qui est censé. Hop. Une petite vis donc, qui permet par exemple de automatiser un peu les choses dans le sens où si je déplace ma vis pour la rentrer dans l'objet, elle va tourner automatiquement. Et là, j'ai même une contrainte supplémentaire qui fait que même si je continue à monter ici, à vouloir me déplacer en Z, la vis ne sort pas complètement de l'objet que je veux visser. C'est une contrainte que je peux faire sauter ici, donc maintenant je peux monter plus haut si je veux. Et ensuite j'ai la possibilité de régler, par exemple, la vitesse de rotation donc lorsque je descends. Donc là on voit que ça tourne assez lentement, et je peux monter, hop, plus. Et donc dans ce cas-là, lorsque je descends, on voit que ça tourne beaucoup plus rapidement. Donc ça, vous le devinez, c'est fait avec un driver ici, qui va lier la rotation de mon objet par rapport à sa position. Ensuite, un petit piston ici, et il me suffit de faire une rotation sur cet os-là pour automatiser. Alors, je ne suis pas en face, donc ça ne tourne pas. Voilà, pour automatiser le piston. Donc là, on a la possibilité, ça c'est juste pour déplacer le piston à l'endroit qui nous intéresse, et ensuite la rotation ici. Derrière, ce rig-là utilise les layers pour cacher les os qui sont réellement utilisés dans ce rig-là. Puisque l'animateur, il n'a pas besoin de voir tous ces os-là. Lui, ce qui va l'intéresser, c'est de pouvoir positionner le piston au bon endroit et de le faire tourner. La mécanique qu'il y a derrière, ça ne l'intéresse pas. Même chose pour le vérin ici. Lorsque on actionne le vérin, ben, on n'a pas simplement la rotation du bras, mais on a aussi un piston qui se rentre ici. Enfin, c'est plutôt le piston qui se rentre qui va actionner la rotation du bras. Et donc là, même chose, hein, on a utilisé les layers pour cacher la complexité du rig derrière. Donc ça, c'était des rigs que j'avais construits. Là, maintenant, c'est plus de moi. Ici, on a un rig assez intéressant qui va nous permettre d'avoir une échelle qui va toujours suivre le mur. C'est-à-dire que si je veux que mon échelle soit plus ou moins penchée, elle va toujours se positionner contre le mur. Donc on a un os ici qui définit tout simplement la position du mur. Et ensuite, on a un système avec des drivers qui et des formules de trigonométrie qui vont nous permettre de calculer l'inclinaison de mon échelle. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a aussi la possibilité, donc ça c'est pas forcément du rig, c'est plus utilisé avec des drivers, mais on a la possibilité de rajouter ou d'enlever un certain nombre de barreaux à mon échelle, de gérer la distance entre les différents barreaux, la hauteur de mon barreau, la largeur de mon échelle, etc., etc. Donc là, on a vraiment une échelle qu'on va pouvoir créer sur mesure. Et bien sûr, hein, le rig continue à fonctionner dans ce cas-là. On a ici une horloge, donc où on va avoir la possibilité de régler l'heure qu'il est. Donc les secondes aussi. Mais ce qui est assez intéressant sur ce modèle-là, c'est que l'aide des drivers, on a la possibilité, alors je pense que voilà, de faire en sorte qu'elle s'anime toute seule là-dessus. Et de jouer ici sur le fait que je vais avoir ma trotteuse qui va être entièrement continue ou alors qui va faire des sauts de seconde en seconde, etc. Donc ça, en utilisant les drivers, il n'y a aucune clé d'animation dans le système, hein, c'est vraiment juste les drivers qui vont permettre de faire ça. Le suivant est assez intéressant aussi. Donc c'est une petite fourmi ici, et je vais avoir la possibilité, tout simplement quand je vais déplacer ma fourmi, elle va se mettre à marcher toute seule. Donc là aussi, ce sont uniquement des drivers. Alors, on cache un peu la complexité du rig, hop, puisqu'il y a un certain nombre d'os qui sont cachés. Voilà, l'intérêt hein, d'utiliser les layers, hein, c'est que moi j'ai un os qui me permettait d'avancer. Si là maintenant on voit que c'est beaucoup moins simple quoi. Alors je monte en même temps, mais voilà, on a la possibilité hop, donc, de définir la position de départ et ensuite d'avancer. Hop, c'est l'axe Y, hop, voilà. Et donc ça c'est fait uniquement donc avec les drivers et en utilisant des contraintes sur les os. Hop. Et cette machine-là, donc ça c'est disponible sur BlendSwap, qui va me permettre. Alors je ne sais plus sur quel layer, c'est sur le 2. C'est une machine qui me permet d'automatiser complètement. Mais il y a une animation qui est faite. Donc à partir de la rotation d'un objet, ben, ça va impliquer toute la machine qui va se mettre en route. Donc ça, c'est fait sans armature. J'appelle ça un rig quand même, puisque les contraintes sont appliquées directement sur les objets au lieu d'être appliquées sur les os. Hein, puisque sur les différents objets, on peut retrouver aussi hein, un onglet contraintes ici. Hop, c'est celui-là, où on a un certain nombre de contraintes qui vont s'appliquer de la même manière qu'on le retrouve hop, sur mon os, et cet onglet-là, on le retrouve, mais il nous dit, attention, si vous voulez appliquer des contraintes sur un os et pas directement sur l'armature, il faut aller dans ce petit onglet où on va retrouver les contraintes que je vais appliquer à mon os. Donc ce système-là va nous permettre d'animer tout ce qui nous intéresse dans cette scène. Donc si je prends tous les objets, si je prends cet objet-là par exemple, si je suis sur le bon, on va voir qu'il a une contrainte, au moins une contrainte appliquée, celui-là il en a deux. Donc une contrainte transformation, une contrainte limite location qui va voilà, limiter sa position en Z pour ne pas dépasser une certaine valeur. Celle-ci c'est une copie rotation par exemple, etc. etc. Et enfin, pour terminer dans les rigs mécaniques, un rig assez intéressant, assez compliqué à mettre en œuvre. C'est pas du tout de moi. On a ici un rig où on va avoir une voiture qui va se monter toute seule. Donc on le voit en haut à gauche, la vue caméra. Hop. Où on a la carrosserie qui se déplie. Hop, la voiture qui se met en place, et ensuite la carrosserie qui va venir se mettre autour de la voiture. Si je ne dis pas de bêtises, en fait, on a plusieurs armatures différentes dans ce système-là. On le voit assez facilement. Hein. On a une armature à cet endroit-là. On voit ici les os qui sont en place, qui sont déjà à l'endroit où le système va arriver. Et puis ensuite, on a une autre armature, on le voit ici, hop, qui va servir à déplier la carrosserie, voilà, pour cette étape-là. Voilà pour quelques exemples donc de rigs mécaniques. Hop. Et donc maintenant, je vais passer aux rigs organiques ou non, on va voir pourquoi. Donc il y a quelques notions qui sont intéressantes de connaître. Donc la notion, la différence entre forward kinematics et inverse kinematics. La notion de charnière qu'on retrouve très souvent dans les rigs. Donc, la colonne vertébrale qui va pouvoir être étirable ou non, et le footroll. Donc tout ça, ce sont des choses qui intéressent pas mal donc, les animateurs pour savoir comment ils vont pouvoir manipuler leur personnage. Parce qu'il faut savoir que c'est l'animateur et c'est surtout le personnage qui va décider du rig. C'est-à-dire que le personnage, suivant ce qu'il est censé faire dans l'histoire, ben, il ne va pas forcément avoir le même rig. Si c'est un personnage qu'on voit qui passe au fond, ben, il ne va pas forcément avoir de rigging facial, alors que si c'est le personnage principal, ben, là, par contre, on va soigner le rigging facial pour parce que le personnage va peut-être parler. Perdu. Donc la notion, la différence entre donc forward kinematics et inverse kinematics, c'est tout simplement le fait que si par exemple avec ce tube de gauche ici, j'ai décidé de venir toucher un objet qui se situe au niveau de mon curseur 3D ici. Alors ben c'est parti. Ah, ça marche pas. Donc je vais tourner un peu plus peut-être au départ. Hop. Ça marche toujours pas, donc je vais essayer de me décaler un peu. Ce coup-ci, je vais pas assez loin, zut. Vous voyez que c'est pas simple. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le forward kinématique, c'est-à-dire que la position d'un os va dépendre de la position de l'os qui le précède. Donc là, j'ai un lien de parenté entre tous ces os-là. Et donc, pour calculer la position de mon dernier os, mais il va falloir que je positionne à la main chacun des os précédents. Ça, c'est quelque chose qui est complètement impossible à faire. Et c'est pour ça qu'on a l'inverse kinematics qui va me permettre de décider, à l'aide d'un os ici, qui va servir de cible, et décider, ben, cette cible-là, je veux qu'elle soit positionnée ici. Et c'est Blender qui s'occupe du reste et qui va calculer la trajectoire de chaque os. Donc ça, c'est pratique, mais ça a un inconvénient majeur. Bah, c'est que si ici, je ne voulais pas qu'il y ait une belle courbe, mais que ça fasse un S, bah, je ne peux pas le faire. Pas facilement, en tout cas. Donc, il faut savoir que les deux existent. Les animateurs utilisent l'un ou l'autre. Ou les deux, puisque, on le verra plus tard, les rigs permettent de passer d'un système à un autre. Alors, ça dépend de plein de choses. Par exemple, pour les jambes, généralement, on va utiliser l'inverse kinematics parce que on est sûr d'une chose, c'est qu'on veut que le pied touche le sol et parce que c'est quand même comme ça qu'on marche. Donc, on va utiliser le plus souvent l'inverse kinématique. Mais ce n'est pas forcément le cas, puisque pour avoir des mouvements de balancier réguliers, comme on a pour les bras, bah, il vaut mieux utiliser le forward kinématique. Ça sera beaucoup plus facile à faire un mouvement de balancier régulier. Pour les jambes, on peut être amené à utiliser le forward kinematics ici aussi, pour par exemple juste une séquence où on a un footballeur qui tape dans un ballon, ben là on a un mouvement balancier régulier, donc c'est beaucoup plus facile de faire ça en forward kinematics. Hop, pardon. Hop, la charnière. La notion de charnière, ça va permettre de définir. Donc là, j'ai construit un magnifique personnage où on a le tronc ici et les deux bras. Et lorsque je tourne le tronc ici, on se rend compte que les bras suivent la rotation. Et c'est pas forcément ce que l'on souhaite. Donc on a la possibilité d'utiliser un système. Donc on voit ici qu'on a plusieurs contraintes. Et je peux décider, par exemple, de baisser l'influence de cette contrainte, de cet os-là, ce qui va me permettre, lorsque je tourne ici, de faire en sorte que mon personnage, même s'il a le tronc qui tourne comme ça, il va avoir le bras qui va rester complètement à l'horizontale. Au lieu d'avoir le bras qui fait ça, il va avoir le bras qui fait ça. Donc ça, c'est un système qui est très 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 souvent utilisé, qu'on retrouve sur tous les rigs de bonne qualité pour les bras, et qui peut être utilisé aussi, on le verra plus tard, pour le cou, et qui est utilisé aussi pour les jambes lorsqu'on est en forward kinematics. Donc la colonne vertébrale qui s'étire ou pas, on le verra dans un exemple plus tard. Et le foot roll, c'est un système qui va me permettre... je vais en parler tout à l'heure, ce sera plus simple, le moment venu. Donc, on va décortiquer un peu ce qui se passe au niveau des jambes. Donc ici, j'ai un personnage, donc la modélisation est sous Creative Commons Blender Foundation. Le rig, je l'ai scratché et j'ai refait mon propre rig par-dessus. Donc ici, on a directement les os de déformation, c'est-à-dire que si je déplace ma jambe ici, j'ai la jambe qui va venir. Donc si je la tourne, ça va bouger. Donc ici, je manipule directement mes os de déformation, c'est-à-dire les os sur lesquels j'ai fait mon skinning, dont j'ai parlé au tout début. C'est-à-dire que j'ai un lien direct entre ces os-là qu'on voit et mon maillage. Autant dire qu'en animation, jamais l'animateur n'a à voir ces os-là et ne va toucher à ces os-là. On va toujours se débrouiller pour qu'ils soient sur un layer qu'on ne voit pas et ensuite que l'on retrouve d'autres os que l'animateur va pouvoir manipuler. Donc ici, on va retrouver le forward kinematics, donc où je vais de la même manière, donc en rotation si possible, pouvoir... Aïe, j'ai mal pour son genou. Manipuler, donc là, on a l'impression de faire exactement les mêmes manipulations que je pouvais faire avec mes os de déformation. On a tout simplement rajouté une chaîne qui va avoir la même position que mes os de déformation et utiliser des contraintes de copy-transform, c'est-à-dire que je veux que mon os de déformation il ait la même position, la même mise à l'échelle et la même rotation que l'os que je manipule ici. Donc, on aurait pu utiliser directement les os de déformation pour faire cette étape-là, sauf que là, j'ai utilisé derrière une forme circulaire pour remplacer mon os. C'est une bonne pratique de toujours faire en sorte de jamais manipuler les os de déformation. Sur cet os-là, pour le moment, si je tourne mes hanches, on a les jambes qui suivent. On a la possibilité, alors je ne sais plus sur quel os je l'ai mis, yep, de faire en sorte d'avoir, je ne sais plus sur quel os je l'ai collé, Il est plus là. Je l'ai perdu. Donc, la fameuse charnière. Je ne sais plus sur quelle je l'ai collée. Tant pis. Qui va nous permettre de faire en sorte que quand je tourne là, bah, on a les jambes qui restent en place. Vu qu'il ne reste pas beaucoup de temps, je vais avancer. Ici, ben, on a de l'inverse kinématique, donc où je vais pouvoir directement positionner mon pied à l'endroit où je veux, sans avoir à manipuler ici les différentes positions de ma cuisse et de mon tibia. On a juste la possibilité de modifier la position de la rotation de mon genou. Donc là, c'est vraiment un rig simple, parce que si je descends plus bas, on voit qu'on a le pied qui part alors que la jambe reste en place. Donc là, un rig un peu plus compliqué, qui fait juste en sorte que si jamais je me déplace trop, le pied reste à sa place au lieu de descendre avec le personnage, avec l'os, pardon. Un autre rig ici, où ce coup-ci, on n'a pas... Alors, il faut que je sélectionne le bon os. Je ne peux pas être sur le bon layer. Voilà. Où ce coup-ci, on n'a pas de différence principale lorsqu'on fait ça. Mais par contre, voilà, on a un système plus cartoon, où si je descends, bah, on a la jambe qui s'étire. Et on a surtout la possibilité, lorsque je me déplace, de manipuler légèrement ou pas d'ailleurs, la position de mon genou. Ça, c'est très utile pour les animateurs parce qu'on a souvent ce qu'on appelle un pop, c'est-à-dire lorsqu'on fait un cycle de marche par exemple, on a toujours un moment où le genou claque, il a l'impression qu'il a une petite cassure. Alors, en venant bidouiller cet os-là, on a la possibilité l'animateur a la possibilité d'éviter cet effet-là en bidouillant légèrement ça. Et on a ici la même chose, sauf que c'est un style plus cartoon, puisqu'on voit qu'on a ici de la rotation, de la flexibilité sur le. J'ai perdu toutes mes custom properties, je ne sais pas où elles sont. On a la possibilité donc d'avoir ici la jambe, au lieu de se plier, ben, elle a une rotation qui fait que c'est un style plus cartoon. Le fameux foot roll dont je parlais, c'est très utile lorsque l'on fait marcher le personnage. C'est la possibilité d'avoir ici, hop, je suis encore pas sur le bon layer, voilà, la possibilité de faire ce genre d'action, c'est-à-dire de mettre une rotation sans que ça influe la rotation des orteils, pardon, et dans l'autre sens où on a une rotation autour du talon. Donc ça, c'est très utile pour les cycles de marche. Lorsque l'on met tout ça ensemble, on a la possibilité de mettre tout ça ensemble, donc d'avoir l'inverse cinématique, le forward cinématique, et ensuite de pouvoir jouer là-dessus avec le foot roll et éventuellement d'autres actions qui permettent par exemple d'avoir une rotation autour des orteils de cette manière-là. Si c'est un personnage fumeur qui passe son temps à écraser des mégots, l'animateur sera peut-être content d'avoir ce genre de choses. Ou si c'est un danseur fou, on a la possibilité d'avoir, pardon, ce style. Voilà, il est vraiment fou là. Ce style de rotation, donc avec un double axe de rotation sur le pied. Voilà pour le genre de choses qu'on peut voir en rigging organique, pardon. Pour le coup, j'en parlais tout à l'heure, on a la possibilité, lorsque l'utilisateur se penche en avant, là on voit que la tête et le cou suivent, mais on a la possibilité de faire en sorte que la tête reste tout le temps verticale. Donc lorsque je tourne, j'ai la tête qui reste tout le temps verticale. Donc ça, j'utilise la même propriété que tout à l'heure sur les bras de charnière. Et on a la possibilité aussi de faire en sorte que le cou ait un mouvement fluide par rapport à la position de la tête et du torse. Donc avoir une position intermédiaire entre les deux. Lorsque je vais tourner la tête, on voit que le cou se déplace aussi légèrement. Ça permet d'avoir un mouvement beaucoup plus fluide au lieu d'avoir le cou dans une position, la tête complètement dans une autre, quelque chose qui n'est absolument pas réaliste. Donc ensuite, on peut retrouver donc le rig de tout à l'heure, mais ce coup-ci avec le rig de la Blender Foundation qui comporte toutes ces propriétés-là. Donc on a la possibilité, comme je disais tout à l'heure, de passer du forward kinematics à l'inverse cinématique. Donc il faut que je retrouve juste le layer voilà, où ça a été mis. Donc là, je suis en mode forward kinematics. Donc j'ai ma jambe qui va... que je peux régler à partir de la cuisse et du tibia. Mais j'ai toujours ici mon os de forward kinematics. Et lorsque je règle ici, je peux passer de l'un à l'autre ici pour décider si mon personnage il est en forward kinematics ou en inverse kinematics. Par des petits scripts, on a la possibilité de passer de l'un à l'autre automatiquement. C'est le cas sur ce personnage-là que j'ai construit. Donc, on va avoir la possibilité, par exemple, si on est alors, hop, en forward kinematics, j'ai toujours ici mon os d'inverse kinematics qui se trouve à cet endroit-là, mais j'ai la possibilité de dire, hop, je veux que mon inverse kinematics vienne se positionner exactement au même endroit que l'inverse kinematics, et donc si je rebascule ici en mode inverse kinematics, je vais pouvoir, hop, basculer et changer de mode, comme ça, à la volée, au milieu d'une séquence, puisque je ne vais pas avoir de saut fait. D'autres rigs, donc ici, on est sur un style plus cartoon, donc on va retrouver exactement tout ce que je viens de vous raconter au niveau de... Alors là, je suis sur... Voilà. Des jambes, donc avec le petit tweak ici qui nous permet de gérer les éventuels problèmes de saut. La différence, et donc ce dont je parlais tout à l'heure, c'est que ici on a une colonne vertébrale qui est entièrement flexible et on va avoir la possibilité de faire des choses beaucoup plus cartoon voilà, pour faire ce genre de choses. Au niveau du rig de visage, il y a deux manières différentes de faire. Celle-là, c'est un rig complet, dans le sens où c'est géré uniquement avec des os. Et j'ai un autre rig cartoon ici, où à l'inverse, une partie de l'animation du visage est gérée avec des shape keys. Donc les shape keys, ça permet de déformer un maillage pour lui dire par exemple j'ai une position ici et puis j'ai une autre position où la lèvre est montée comme ça. Et puis je vais avoir une autre position comme ça, et puis je vais avoir la lèvre qui est montée comme ça, et si je mixe les deux, je vais pouvoir monter, ou alors avoir, être comme ça, etc. Donc ça a l'avantage d'être un peu plus simple à mettre en place, ça a l'inconvénient qu'on est limité par les shape keys qui ont été positionnés par le rigger, alors que lorsqu'on est sur un rig complet, je vais pouvoir avoir beaucoup plus de flexibilité, mais le rig est beaucoup plus difficile à mettre en place. Un autre type... de rig sous licence Creative Commons aussi qui a la particularité, on va retrouver exactement les mêmes propriétés que tout ce que j'ai présenté, mais qui a la propriété d'avoir un deuxième style de rig ici qui va nous permettre de modifier les propriétés de mon personnage, par exemple de le mettre tout nu, de choisir qui va porter ce genre de choses, la hauteur de son cou, sa taille globale, où sont positionnées les hanches, la largeur du cou, etc. etc., etc., etc. Est-ce que c'est un personnage qui a des seins, qui n'en a pas, qui a des grosses fesses ou pas, etc., etc. Et je vais pouvoir régler aussi directement là-dessus toutes les couleurs de la chevelure, etc., etc. Lorsqu'on n'a plus besoin, lorsqu'on a le personnage qui nous intéresse, on n'a plus besoin de ce système-là, et on se retrouve avec un rig, un personnage entièrement personnalisé, et un rig qu'on va pouvoir ensuite animer exactement comme n'importe quel rig. Ce rig-là, donc, c'est un quadrupède, mais on va retrouver exactement la même chose que sur n'importe quel personnage organique, puisqu'on va retrouver de l'inverse cinématique, on va retrouver... du forward kinematics, on va retrouver ici ce qui est l'équivalent des épaules, ce qui est l'équivalent de la hanche. Et puis, c'est un personnage qui a un cou, qui a une tête, comme n'importe quel personnage. Donc, ce rig-là est assez horrible. Si je vous montre l'ensemble des os qu'il y a dessus, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Heureusement que l'animateur ne voit pas tout ça, sinon il part en courant. Donc, je ne vous détaille pas tout ce que sait faire cette bestiole-là, déjà parce que je ne l'ai pas étudié à fond, parce que ça fait beaucoup d'os à regarder. Mais voilà, c'est ce qui a servi dans Coming and Death, pour ceux qui ont vu le court-métrage. Et le petit singe, donc celui-là, je vais vous le montrer rapidement, puisque j'arrive à la fin de mon temps. Un système pour l'animation du visage, qui est différent de ce qu'on retrouve sur les autres personnages que je vous montrais avant, dans le sens qu'on a des os qui sont complètement décorrélés du visage, puisqu'ils sont positionnés au-dessus, et c'est plus comme un espèce d'écran de contrôle qui va me permettre, mais c'est un os quand même, hein, qui va me permettre ici de déplacer. Alors je vais mettre plus de face, qu'on voit mieux, si le personnage sourit ou fait la tête, et avoir un côté qui sourit, l'autre qui fait la tête, etc. etc. Donc ça reste un os qui va manipuler des chèques, si je dis pas de bêtises, pour ce personnage-là. Donc de la même manière, on va retrouver la bouche grande ouverte ou alors quelque chose de plus serré. Et de la même manière, pour les yeux, est-ce qu'il fait peur ou est-ce qu'il est attristé ? Et ensuite, la même chose pour les sourcils, etc., etc. Donc ça, c'est un système un peu différent. Ensuite, ben, c'est l'animateur qui préfère telle ou telle fonctionnalité. Et enfin, pour terminer, ce n'est pas un rig organique, mais donc ça, c'est la bestiole de Tears of Steel, un film court-métrage produit par la Bender Foundation, mais on va retrouver exactement, encore et toujours, la même chose, hein, puisque même si c'est un rig mécanique, on va retrouver toujours la même chose, inverse kinematics, forward kinematics pour les jambes, qui va me permettre de déplacer mes jambes, de déplacer l'équivalent d'une épaule, de déplacer l'équivalent des hanches, qui me permet de faire ce genre de choses, etc. Donc même si c'est un objet mécanique, on va retrouver le même genre de choses que le rig, n'importe quel rig organique. Donc les crédits de tous les rigs que je viens de montrer. Et on arrive à la fin. Donc voilà, j'espère qu'on a 5 minutes pour des questions s'il y a le temps. Voilà.
Ouais. Et que tu réponds aux questions.
Ouais, donc si vous avez des questions, 50 minutes, c'est rapide pour présenter tout ce genre de choses. Donc voilà. N'hésitez pas à rejoindre Blender User Group les samedis, une fois par mois, à Bellegarde, où je suis très souvent. Donc si vous êtes intéressé par le rigging, je pourrais revenir sur tel ou tel sujet. Je vous laisse la parole si vous avez des questions. Pour smoother les os, on utilise un système d'os un peu particulier. C'est au lieu de les garder sous forme ici, sous cette forme-là, on a la possibilité de les mettre sous forme de bibones ici. Donc ils sont rectangulaires comme ça. Et on a la possibilité sur chacun des os de définir ici le nombre de segments qu'ils ont. Et en fait, donc si j'augmente le segment, par exemple, à 5, je vais l'augmenter à 5 sur celui-là aussi, et à 5 sur celui-là. En fait, il va y avoir, lorsque je passe en pose mode, une interpolation qui est faite pour chaque segment, mais qui fait que, au lieu d'avoir directement, on va le voir si je repasse, mode ici, au lieu d'avoir un premier segment, deuxième segment, troisième segment, et j'ai une interpolation qui se fait en fonction du nombre de segments que j'ai rajouté sur mon os. Voilà.
Quand tu as deux chaînes, tu as des enchaînements ?
Alors, quand il y a deux chaînes, s'il n'y a pas de lien de parenté, il ne sait pas faire l'interpolation, donc ça va repartir comme deux chaînes séparées.
Questions ?
question. Tu as parlé des drivers. Est-ce que ça a une utilité dans le cadre de l'animation de modèles organiques?
Alors, ça a une utilité. Oui, ça a une utilité. Tout simplement, par exemple, lorsque ici je passe de l'inverse cinématique à la forward cinématique, j'ai plusieurs influences ici qui vont bouger sur tous mes os. Sur ici, alors forcément je suis sur un os sur lequel il n'y en a pas. J'ai pour tous mes os de ma chaîne, donc une fois pour la jambe, une fois pour le tibia, une fois pour le pied, une fois pour les orteils, j'ai une influence qui va diminuer. Et donc avec un seul slider, en fait, derrière, j'ai un driver qui va diminuer l'influence sur mes quatre os à la fois. Donc oui, ça a une utilité, dans le sens où c'est juste une tirette pour moi, mais derrière, j'ai quatre influences qui sont modifiées. Et ça, c'est fait avec des drivers. Alors les drivers, je ne vais pas avoir le temps de présenter comment ça fonctionne. Donc tout simplement le driver, donc si clic droit Add Driver, et ensuite le menu qui sert à régler les drivers, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est dans le graph editor, et au lieu de rester en F-curve ici, on passe en mode driver. Et là, on a un nouveau monde qui apparaît, et que je ne vais pas présenter aujourd'hui. Encore un. Voilà les paramètres, alors N ici, on a les paramètres du driver qui apparaissent, et là voilà, là c'est vraiment un nouveau monde qui apparaît. C'est là-dedans qu'on va régler les drivers.
J'aurais voulu savoir au sujet des morphs. J'ai montré un rig avec CG Cookie.
Ouais.
Quels sont les passages, les transformations de personnages, donc aussi bien sur le volume. La face cachée, cette partie, est-ce que les utilisateurs lambda peuvent arriver justement à configurer un personnage sans pouvoir en faire des transformations
Oui, c'est ce que j'ai commencé à faire. Moi, j'ai fait un peu n'importe quoi, j'ai allongé le cou, etc. Mais après, en faisant des réglages précis, on peut faire n'importe quel personnage, puisqu'on peut régler n'importe quelle couleur. Voilà, en partant d'un personnage, tout à fait, en partant d'un seul personnage, on va avoir la possibilité Alors, il y en a un certain nombre qui sont pré-programmés. C'est pas ici, c'est là. Donc, on va avoir plusieurs personnages qui sont pré-programmés ici. Voilà. Tout ça, en fait, c'est juste des presets de l'ensemble des paramètres que j'ai montrés. Donc, ça, tout ça, c'est le même personnage. Ça part d'un seul personnage et d'un seul rig. Là, je ne suis pas en train de changer des layers pour montrer des personnages différents. C'est le même personnage, c'est juste les différents paramètres qui me permettent de choisir ce truc-là. Là, c'est vraiment juste des presets de tout ce qu'on est capable de faire.
Je suppose qu'à créer un truc comme ça, c'est...
Ouais. Ouais.
Est-ce que c'est possible de faire du morph en temps réel entre les deux personnages?
Oui, puisque n'importe quel paramètre ici, là, ça, c'est animable. Donc là, par exemple, c'est les seins, je vais pouvoir mettre une image clé ici et 10 images après, une image clé ici. Donc je vais avoir l'interpolation entre les deux. Hop. Donc je fais du morph entre les deux. J'ai bien choisi mon exemple. On coupera au montage.
Et du coup, si on fait du morph entre un personnage comme ça et, mettons, autre chose qui n'a rien à voir, un dragon, un animal, un personnage qui se transforme en animal, ça devient plus tendu.
Alors ça devient plus compliqué, puisque là, on a les mêmes nombres d'os qui sont positionnés à peu près de la même manière. Un dragon, c'est un autre type de personnage. Si tu arrives à avoir le même nombre d'os qui sont positionnés à peu près pareil, ça doit être faisable, mais je ne le garantis pas. Je vais laisser la place parce que je crois que mon temps est terminé. Je suis par là tout l'après-midi et vous pouvez vous inscrire à mon atelier demain après-midi où on aura peut-être plus le temps de discuter du rigging. Merci à vous. Merci.